sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes, présentée en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, mieux connue sous le nom de la SPIB. Et je salue son président directeur général, Donald Olivier. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Savais-tu, Donald, qu'on a déjà franchi la barre des 50 émissions? C'est notre 51e.
Oui, Marie-Noël nous rappelait ça, effectivement. Hein, ça passe quand même vite. J'aurais pas dit ça au début qu'on se rendrait jusqu'à 51, mais c'est pas fini.
Oui, puis beaucoup de bons sujets, puis on aura un autre bon sujet aujourd'hui. Vous allez voir, chers auditeurs, auditrices, qu'on invite d'ailleurs à nous écrire, comment faire pour poser vos questions. Vous allez tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, en cliquant sur « Poser vos questions ». On peut le faire aussi par texto, téléphone, 819-519-9050, 819-519-9050. Mais comme toujours, avant d'y aller avec notre invité, de laisser le plaisir de nous la présenter, on revient toujours sur l'actualité des derniers jours, Donald, et beaucoup d'actualités récemment. Bon, il y a eu cette annonce, entre autres, de Mark Carney pour des investissements de 500 milliards dans la filière défense. Comment t'accueilles cette nouvelle-là? Parce que on sait que potentiellement, il pourrait avoir des impacts, éventuellement, sait-on jamais, dans le parc.
Oui, mais clairement, c'est pour l'ensemble du Canada. Hein, le 500 milliards, c'est positif. Et puis, la différence par rapport à ce qu'on a pu voir dans les dernières années, c'est que c'était beaucoup de transformer les minéraux critiques, les valoriser, ce qui était peu fait. Alors que là, la défense, ça amène l'idée aussi que des entreprises qui ont déjà des procédés, qui ont déjà certains produits, peuvent se qualifier pour ajouter des fournisseurs. Donc, je pense que la différence, c'est qu'il pourrait y avoir quand même beaucoup d'entreprises déjà existantes qui se taillent une place dans ce créneau-là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que parfois, ce qui freine, c'est que quand tu veux, c'est bien beau construire une usine, là, mais ça prend beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement puis beaucoup de temps à créer. T'sais, on le voit, là, bon, Nemaska Lithium, Ultium Cam, ça avance tout ça, mais c'est des projets qui se font en années. Alors que là, la qualification va peut-être prendre un certain temps, mais les retombées peuvent quand même être assez importantes, selon moi, pour plusieurs entreprises de tout type confondu. Hein. Oui, fait que donc c'est positif. Et puis, il faut voir qu'il y a quand même un sous-ensemble commun, parce que la défense, il y a une portion aussi qui tourne autour des minéraux critiques.
Exactement.
Donc, ça vient comme un peu consolider ce qui se passe déjà. Et puis, c'est positif, effectivement.
Puis, dans la même foulée de la dépense dans la défense, donc, il y a eu quand même cette annonce pour 1,5 million de dollars à peu près là, au Centre de métallurgie du Québec, toujours dans le domaine de la défense. Le Centre de métallurgie du Québec, est-ce que vous avez un lien indirect, direct, ou les entreprises peut-être avec ce centre de technologie?
C'est pas tant la Société du parc que les entreprises elles-mêmes qui ont des ententes, mais tu sais, c'est au cégep de Trois-Rivières, hein, ce centre de métallurgie-là. Donc, c'est là depuis quand même très longtemps. Probablement que la population connaît pas trop bien ce centre-là. Mais c'est vraiment intéressant. Il joue vraiment un rôle de leader. Et puis là, avec le financement additionnel, je trouve que ça lui donne des outils de plus. Ça vient aussi carrément établir leur crédibilité dans ce créneau-là. Et puis encore là, mettons, défense, là, c'est pas tant juste du fer hein, qu'ils ont besoin, puis de l'aluminium. Hein. Encore là, les minéraux critiques sont importants. Puis des minéraux critiques, les transformer, c'est de la chimie, puis c'est de la métallurgie. Exactement. Donc, c'est un mélange des deux. Fait que tout ça va être positif autant pour les projets de défense que pour les projets de transformation des minéraux critiques. Fait que donc, vraiment une très belle nouvelle encore. T'sais. Puis on voit que la région, je trouve qu'il y a comme un créneau qui prend de plus en plus forme dans la région, puis c'est positif.
Autre nouvelle aussi, le gouvernement du Québec qui injecte 275 millions de plus dans Nemaska Lithium, qui passe aussi sous le contrôle de Rio Tinto. Comment tu accueilles cette nouvelle-là?
Ben, t'sais, dès le départ, quand Rio Tinto, il faut se souvenir que c'est à peu près, ça fait déjà un an, en mars l'an passé, que c'était déjà télégraphié qu'il y aurait une transaction vers Rio Tinto pour la portion qui appartenait à des Américains. Et puis là, ça s'est fait. Et puis là, on voit que Rio Tinto va devenir majoritaire. Et puis, c'est positif. C'est des gens qui sont déjà dans le créneau des minéraux critiques, dans la transformation. Fait que c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, qui opèrent déjà des sites comparables. Fait que pour nous, c'est positif dans le sens que c'est un joueur crédible, connu, reconnu dans son milieu, qui prend un actionnariat un peu plus élevé. Mais c'est comme... J'ai l'impression que c'était le plan du gouvernement de s'impliquer pour être capable de faire en sorte que ce projet-là démarre. Mais par la suite, de récupérer ces sommes, mais de laisser la place au privé dans ce projet-là.
Puis peut-être dernière nouvelle d'actualité, ces fameux tarifs douaniers, bon, Donald Trump qui a été débouté en Cour suprême, et voilà que, bon, les tarifs douaniers pourraient ne plus s'appliquer. Bon, lui, il réplique quand même avec d'autres choses, mais sur le principe que les tarifs douaniers, bon, ça a été débouté en Cour suprême. Oui. Comment on peut voir la suite des choses pour nos entreprises ici dans le parc industriel?
Ben là, je partais pour te faire une blague. Ça fait 5 minutes qu'on est en onde. Il faut regarder les médias au cas où il n'y a pas sorti autre chose. mais c'est positif dans le sens que les tribunaux ont tranché en faveur du fait que c'était pas correct qu'ils fassent ça tout seul unilatéralement. Donc, c'est positif, mais on ne sait pas comment tout ça va débouler. Hein. Donc, là, il y avait un communiqué, je pense, c'est à partir de minuit, le 24 février, que ça ne sera plus en vigueur, mais il n'y a personne qui sait comment la mécanique va se passer. Mais assurément, le fait qu'il y ait eu un revers devant les tribunaux aux États-Unis, c'est positif, mais après ça, c'est un pas, là, mais on le voit encore. On l'a dit quelquefois que ce qui causait un peu un ralentissement des investissements, c'était l'incertitude. Je suis obligé de dire que ça vient créer de l'incertitude, mais c'est un passage obligé. Ce passage-là était obligé, c'est-à-dire d'avoir ce revers-là devant les tribunaux. Et par la suite, on verra comment tout ça reprend forme. Mais clairement, ça va nous marquer au fer rouge. Hein. Pas juste le Canada, mais tous les pays qui travaillent avec les États-Unis. Ça fait que donc, je suis convaincu que dans 10 ans, on va se dire, OK, ça a été un mal nécessaire et on s'en porte mieux aujourd'hui, mais il faut passer quand même à travers ce tumulte-là.
Il faut vivre avec pendant les 3 prochaines années, je pense.
Ben oui, on va voir l'élection de mi-mandat, vraiment, qu'est-ce qui se passera. Mais clairement, tu sais, puis on parlait de la défense tout à l'heure, mais tu sais, puis on a déjà parlé il y a quelques émissions, mais tu sais, le gouvernement, le fédéral veut quand même aussi... Il y a des budgets qui seront donnés à des contrats à l'extérieur du Canada, les fameux sous-marins, par exemple. Mais vraiment, les contrats sont octroyés à des pays qui seront aussi à l'aise ou qui voudront investir au Canada. Fait que, donc, au-delà de la défense peut amener d'autres retombées. La ministre Mélanie Joly le dit clairement. Là, nous, on est prêts à investir dans des sous-marins ailleurs, en Allemagne ou en Corée du Sud, mais on veut qu'eux investissent dans le domaine de l'automobile chez nous, au Canada. Fait que, donc, il y aura quand même des retombées positives. Et tous les experts prétendent que les États-Unis vont être perdants en bout de ligne, mais... le fun qu'ils réalisent eux-mêmes.
Et on sait que le parc est prêt à accueillir de beaux projets.
Effectivement.
Exactement. Excellent. Puis, en attendant d'accueillir des beaux projets, on accueille de bonnes invités à chaque semaine, de bons invités. Puis cette semaine, on ne fait pas exception. Puis je te laisserai le soin de nous présenter notre invité pour un sujet très important aujourd'hui.
Oui. On a parfois des invités des entreprises du parc. On a eu quelques organismes, dont des organismes plus en environnement. Mais là, on a Mélanie Charron, conseillère en développement socio-professionnel de l'organisme Le Pont. Donc, je vais te laisser le soin de nous l'expliquer. Mais c'est un organisme différent de ceux qu'on a accueillis à date, mais vraiment tout aussi pertinent.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour,
donc, effectivement, je travaille à l'organisme Le Pont. C'est à Trois-Rivières, mais on traverse Le Pont, c'est le cas de le dire, pour, entre autres, là, contribuer à un service aux entreprises pour l'accueil de femmes, particulièrement des travailleuses, parce que depuis plus de 40 ans, Le Pont se veut justement un organisme pour accompagner la main-d'œuvre féminine dans leur insertion, leur intégration, puis leur maintien en emploi. Et à l'origine du Pont, il y a plus de 40 ans, justement, on visait la diversification professionnelle des femmes pour qu'elles puissent intégrer des métiers à prédominance masculine, parce que PON voulait dire programme d'orientation non traditionnelle. Donc, quand on pense au secteur manufacturier, tout ça, la production, bon, on peut penser à des métiers d'abord statistiquement avec plus d'hommes, mais déjà depuis 1982, on travaille là, à ce que des femmes s'intègrent là, pour apporter la distinction féminine dans tout ça, mais aussi une main-d'œuvre minutieuse, précieuse, avec des qualités personnelles, une intelligence émotionnelle. Donc, accueillir dans la mixité des femmes dans des équipes de travail, dans les usines comme dans tout autre secteur, ben c'est sûr que c'est un gage de réussite. Puis si le parc va être prêt à accueillir là, des nouveaux développements en lien avec la qualification d'entreprise existante là, pour la filière défense, ben dites-vous que le pont va être prêt à aller les aider, intégrer des femmes. Et prenez ça en note, on est prête, on est agile, on est innovante. Ma directrice est probablement à l'écoute, elle va être contente de m'entendre dire ça, mais on est vraiment dans un contexte où depuis 5 ans, je dirais, là, on veut justement travailler à trouver des solutions là, pour les entreprises, pour accueillir des femmes là, dans un contexte de mixité au travail.
Puis toi, Donald, dans ton passé, dans ta carrière, mais aussi dans tes fonctions actuelles, puis dans ta connaissance du milieu industriel, tu es en mesure aussi de considérer à quel point c'est important la main-d'œuvre féminine dans le monde industriel.
Oui, juste en génie. Moi, j'ai étudié en génie au début des années 90. Il y avait très peu de femmes. en génie, ce qui était non traditionnel, en tout cas à ce moment-là déjà. Puis je sais que ça a augmenté, mais tu sais, je suis obligé de dire dans mon temps. dans mon temps, c'était peut-être un 5-10%, mais qui a évolué quand même. Et puis, c'est sûr que c'est comme. Je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a comme un bassin de main-d'œuvre, peut-être qu'on peut tirer profit, mais il y a carrément aussi des domaines d'activité que les femmes n'ont peut-être pas pensé. Des métiers qu'on ne connaît pas, qu'on ne pense pas que c'est possible, bien qu'on ait les aptitudes, si on ne les connaît pas, on n'aura pas tendance à y aller. Donc, c'est clair qu'un parc industriel, je suis obligé de dire que oui, c'est des métiers souvent à prédominance masculine de par la nature ou de par notre culture ou comment ça s'est passé dans le temps, mais assurément, il y a une place pour les femmes dans toutes ces usines-là.
Je pense que ce serait important aussi, d'entrée de jeu, Mélanie, de déboulonner certains mythes, parce que, bon, on entend parler du pont, il y en a qui confondent ça, parce que ça a souvent été identifié comme étant le centre, le pont, donc... Peut-être, justement, là, peut-être déboulonner certains mythes par rapport à ça.
Effectivement. Bien, à l'origine, justement, on voulait que les femmes puissent accéder à différents métiers. Puis au fil du temps, on s'est nous-mêmes diversifiés. On va dire ça comme ça. Mmh. On répondait aux besoins de toutes les femmes. Ce qui fait que parfois, au fil du temps, ça a pu confondre la population générale en disant, bon, centre-le-ponce pour les femmes victimes de violences amoureuses ou violences conjugales. On va aider des travailleuses qui ont ces réalités-là, peut-être dans leur sphère de vie, à justement... activer leur pouvoir d'agir, leur autonomisation financière pour parfois se sortir de certaines réalités là, domestiques qui ne sont pas faciles. Par contre, on n'est pas un centre d'hébergement. Hein? Parfois, on entend ça là, quand on demande « Connaissez-vous le pont? » »« Ah oui, ce n'est pas pour les femmes victimes de violences. » Non, on est vraiment pour l'empowerment, le pouvoir d'agir des femmes dans le contexte du travail, pour s'insérer, s'intégrer, se maintenir au travail. Autre mythe, parfois, c'est que le pont était là pour les femmes peut-être qui ont été absentes de manière prolongée du marché du travail, ou bien pour leur rôle de vie de maman à la maison, ou pour une période de maladie, ou des femmes qui étaient sur l'aide sociale, à titre d'exemple, qui voulaient se réintégrer sur le marché de l'emploi. Bien que c'est des profils qu'on accompagne, aujourd'hui, 40 ans plus tard, ce n'est pas exclusivement ça, évidemment. On vient en aide aussi aux femmes professionnelles qui sont en repositionnement de carrière, qui souhaitent se mettre un peu à l'épreuve. On a une conseillère d'orientation qui fait plus de 20 ans qu'elle est dans le domaine, 12 ans au Centre Le Pont, qui peut accompagner les femmes dans un repositionnement de carrière, qui justement, parfois des femmes qui vont avoir été dans une charge mentale importante au travail, puis qui vont être attirées par des métiers plus physiques, où on a du calcul, où on a des choses plus qui nécessitent moins des fois de prise de décision là, en lien avec les relations humaines, entre autres choses, des fois des infirmières, des travailleuses sociales, qui vont avoir le goût de se repositionner. Donc, on va leur offrir un service d'orientation qui va peut-être déboucher sur des métiers de génie, des métiers en manufacturier, parce que justement, elles ont accès à tout. Puis un autre mythe qu'on pourrait dire, c'est qu'on est là pour les femmes de tous les âges.
Hein,
on a, oui, une spécialisation dans nos services pour les femmes de 50 ans et plus, mais une 18 ans, mère de famille, peut venir chez nous et on va l'aider à trouver justement son emploi pour concilier ses rôles de vie et aussi sa vie professionnelle. Là. Donc, on est vraiment pour toutes les femmes.
Et vous avez une belle équipe là, de combien de personnes chez vous? Là?
On est une quinzaine maintenant. Dans les 5 dernières années, on est allé chercher une équipe là, avec plusieurs formations premières, autant conseillère d'orientation, travailleuse sociale, des techniciennes en éducation spécialisée, des femmes formées des fois dans le domaine de l'enseignement au départ ou dans la gestion, l'administration. Puis on se retrouve ensemble par justement, je dirais que c'est la mission qui nous tient à cœur, c'est-à-dire d'être là pour qu'on pense à nous, le pont, pour accompagner la main-d'œuvre féminine puis la mixité en emploi.
Oui, puis avant d'entrer en onde, tu nous disais que tu voulais absolument pas manquer de les saluer, tes collègues.
Ben oui, mes collègues, probablement Annie, la directrice qui est à l'écoute, Marie-Claude, qui est une agente de développement, qui se promène beaucoup pour rencontrer des employeurs, des entreprises. Peut-être d'autres collègues aussi à la salle de pause là, qui m'écoutent en ce moment. Bonjour les filles, on est bonnes, on est agiles, puis on est là pour les entreprises de la région.
Donc, il y a déjà la première partie de l'émission qui est quasiment terminée avant d'aller à la pause. Donc, on a mis la table vraiment pour la suite des choses. Parce qu'après la pause, on va parler, c'est quoi un métier non traditionnel? On verra un peu aussi différents services que vous donnez. Puis surtout les relations ou la relation du pont avec les entreprises du parc. Alors, on invite d'ici là les gens à nous contacter. Les femmes en particulier, appelez-nous, posez vos questions ce midi. Donc, pour poser des questions sur le pont. Et donc, ces services aux femmes pour les accompagner dans l'intégration, la réintégration sur le marché du travail, surtout en particulier dans les marchés non traditionnels. Donc, on vous invite à nous contacter. On revient après la pause avec notre invité du jour du Centre Le Pont de l'organisme Le Pont, Mélanie Charron.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
De retour donc avec Mélanie Charon, conseillère en développement socio-professionnel du Pont. Et donc, une petite question du public. Quels sont les tarifs pour recourir aux services du Pont? Est-ce qu'il y en a premièrement, mais quels sont les tarifs?
Voilà. Ben, d'abord, pour les individus femmes, il y a des services qui sont sans frais, le moyennant certains critères d'admissibilité, parce qu'on est partenaire de Service Québec, Emploi Québec, là, pour l'aide à l'accompagnement à la recherche d'emploi. Même des femmes individus qui souhaiteraient venir recevoir nos services professionnels au niveau privé, on fait du cas par cas, on a des grilles tarifaires. Et avec les entreprises, ben, comme on va vraiment faire des... Puis on va donner un exemple concret tout à l'heure, des projets précis qui répondent à des solutions, à des problèmes concrets avec des solutions concrètes, ben là, on a des tarifs professionnels qui sont compétitifs là, avec, par exemple, des firmes de ressources humaines qui offriraient des ateliers, des formations sur la mixité au travail ou sur la qualité de vie au travail, ou même, j'ai envie de dire, on est assez unique en notre genre. Là, vous allez voir dans l'exemple tout à l'heure que je vais donner en lien avec une entreprise là, du parc.
On parle de métier. Merci d'abord pour la réponse. Alors, on parle de métier non traditionnel depuis tantôt. Ben, c'est quoi un métier non traditionnel, si on peut le résumer rapidement?
Ben, on utilise quelques expressions là, selon avec qui on parle. On parle parfois de métier non traditionnel aux femmes, c'est-à-dire que dans nos repères, il y a moins de femmes dans certains secteurs de l'activité économique, certains métiers, certaines professions. On parle aussi parfois de métier à majorité masculine ou à prédominance masculine. Je dirais que c'est peut-être ça qui est le plus approprié comme expression parce que au fond, c'est que statistiquement, les métiers qui ont 33 % de femmes et moins, ben on va les appeler alors en prédominance masculine. Ça veut dire qu'il y a plus statistiquement d'hommes dans ces métiers, ces professions-là. Donc, les femmes sont minoritaires. Fait qu'on va parler de femmes qui intègrent des métiers à prédominance masculine. Donc, 33 % et moins de femmes. Des exemples, électromécanicienne, opératrice d'équipement de production, tous les métiers de la construction, pratiquement. On peut avoir aussi là, la mécanique, mécanique d'engins de chantier, mécanique automobile, mécanique de petits véhicules. Là, c'est des exemples là, de métiers à prédominance masculine.
À l'époque, on parlait de métiers de gars. Là,
Exactement. Puis j'ai envie de dire, on fait des tournées d'école là, avec un projet là, actuellement, puis depuis l'an dernier. Et des fois, on va mettre la table comme ça, là, en disant, ben là, on vient parler de métiers de gars, mais qui sont accessibles aux filles. C'est bien qu'on apporte ça comme ça, parce que ça nous fait voir que, justement, il y a des préjugés tout de même qui tombent chez la jeune génération, que tous les métiers sont accessibles. Ils l'internalisent déjà. Donc, il y a de l'espérance, j'ai envie de dire, de l'espoir, qu'on va peut-être atteindre des fois des pourcentages un peu plus élevés dans certains métiers avec la jeune génération.
Puis, on aime bien mettre en valeur celles qui... pratique ces métiers-là. Puis aussi, vous avez un gala qui s'en vient le 23 mars prochain. Peut-être nous en parler de ce gala.
Oui, ben je peux en parler tout de suite. Oui. Puis bifurquer ensuite sur un exemple concret. Parce que, dans le fond, annuellement, autour du mois de mars-avril, cette année, c'est lundi le 23 mars prochain. On a des partenaires, dont le présentateur officiel là, qui est au parc chez vous, la luminerie de Bécancour, ABI, qui soutiennent des étudiantes qui se forment, des femmes qui se forment ou bien au niveau professionnel, secondaire professionnel ou au collégial. On touche aux techniques, toutes les techniques là, liées au génie, entre autres choses. Même technique policière, c'est encore à prédominance masculine ou ambulancière. Donc, des entreprises ont décidé qu'ils voulaient accorder une importance à valoriser les femmes pour la mixité au travail dans les métiers à prédominance masculine. Fait qu'ils offrent des bourses de 500 $ jusqu'à 2500 $ avec le présentateur officiel de l'abbaye de Bécancour qui nous permet justement... 64 femmes ont soumis elles-mêmes leur candidature et on va les célébrer là, le 23 mars prochain. C'est moi qui serai l'animatrice. On m'appelle la pieuvre dans l'équipe. Je fais toutes sortes d'affaires, donc je vais animer ce gala-là avec beaucoup de plaisir.
J'aime bien le titre du gala. Elles sont faites pour la job.
Exactement, elles sont faites pour la job. Autant que peut l'être un garçon dans ces métiers-là à prédominance masculine, ben, les filles aussi sont faites pour certains jobs là-dedans.
T'as ouvert la porte à parler d'ABI. Bon, évidemment, le plus gros employeur dans le parc. Donald, tu me corrigeras.
Oui, effectivement, c'est encore le plus gros employeur dans le parc qui sont là depuis bientôt 40 ans.
Donc, l'abbaye, vous avez des projets particuliers avec
le pont
et l'abbaye.
Oui, depuis plusieurs années déjà, c'est l'abbaye que... elle-même, si on veut, comme entreprise, là, communiquer avec nous, connaissant là, notre expertise avec la main-d'œuvre féminine, souhaitant vouloir augmenter le nombre de femmes là, dans les métiers là, liés à la production chez eux. Donc, au fil du temps, on a constitué un projet qui met autant ensemble l'ABI, le pont, comité sectoriel là, de la main-d'œuvre en métallurgie également, mm-hmm. le centre de formation professionnelle mauricien à Shawinigan, parce que c'est eux qui vont donner une formation. Donc, l'ABI embauche des femmes dans un processus de sélection rigoureux comme ils le font habituellement. Et par la suite, elles sont comme employées, mais en formation. Et nous, notre mandat, c'est de rencontrer les femmes là, à chaque deux semaines pour s'assurer qu'elles savent bien dans quoi elles s'embarquent. Parce que travailler en production, c'est des chiffres, c'est la rigueur, c'est l'excellence aussi de cet employeur de prestige-là, c'est des valeurs. Donc, on les accompagne pour vraiment au niveau technique, au niveau de la formation professionnelle, tout aille bien, mais aussi qu'au niveau de leur vie sociale, personnelle, leurs différentes sphères de vie, tout est raccord, si on peut dire, pour être des femmes heureuses, des travailleuses heureuses et productives aussi par la suite, là, dans un stage d'été qui va mener ensuite à une embauche. Là.
Rappelle-nous donc, ça fait combien de temps que vous avez
fait ça? On est à une troisième cohorte cette année qui a commencé la semaine dernière, le 16 février. Donc là, on est justement, ma collègue Manon et moi, si elle est à l'écoute, je la salue, à prendre contact avec les femmes qui ont été embauchées par le service des ressources humaines là-bas pour justement leur présenter nos services, qu'on est là comme des complices avec elles, si on veut. On ne remplace pas les ressources humaines, rien de ça, mais on est vraiment en coulisses là, pour s'assurer de leur succès dans leur intégration là, dans un travail là, d'opératrice d'équipement de production.
Oui, évidemment, l'ABI, c'est le principal employeur, mais on peut dire aussi qu'ils sont très proactifs avec vous dans ce créneau-là. Et puis, on pourrait comme lancer un appel aux autres entreprises aussi. Mais vraiment, il faut le souligner. Puis, ce n'est pas anecdotique, c'est pas un projet. Vous avez carrément des cohortes qui se succèdent l'une après l'autre et puis dans un objectif. Parce que, bon, clairement, l'ABI, quand tout ça est arrivé, la filière Betterave et Cancourt avait une crainte aussi en termes de bassin de main-d'œuvre. Et puis, c'est un bassin qui est vraiment sous-utilisé, les femmes. Là.
Oui, on est 50% de la population travailleuse. Là, on est présente, on est là. Puis même, ça fait des petits, genre, si je peux me permettre, parce qu'il y a la luminerie à Deschambault qui a deux là, travailleuses dans la cohorte de 16 présentement. Là. Donc, on est avec une autre entreprise, puis est bien ouverte. On développe l'expertise. Là, on sait comment... Ce que recherchent les employeurs aussi, parce qu'on a les compétences techniques, mais on a les compétences de savoir-être aussi. Puis une femme peut apporter une plus-value dans une équipe de travail.
Oui, puis tu sais, ce qui est intéressant de ce que vous amener, parce que tu parlais tout à l'heure des corps de travail, les chiffres, là, c'est comme une réalité pas évidente. Et puis, que les femmes puissent être conscientisées face à ça, parce que carrément, il y a des hommes qui ne sont pas en mesure de passer à travers ça. Moi, j'ai des amis qui ont travaillé sur des corps de travail jour-nuit, puis qu'ils trouvent ça trop difficile, puis décident de retourner dans un horaire plus stable. Fait que donc, la logique ou la réalité va être aussi vraie pour les femmes. Donc, il y a probablement des femmes qui vont avoir beaucoup plus de difficultés que d'autres de s'ajuster, ne serait-ce que physiquement, à tous ces changements-là qui se succèdent et qui n'arrêtent jamais. Là.
Tout à fait. Ce qui fait que, dès le départ, on met carte sur table, puis on s'assure, tu sais, on est des conseillères en développement socio-professionnel, qu'au niveau social, dans leur filet de sécurité, dans leur filet social, il y a ce qu'il faut aussi, des fois, pour prendre en charge certains aspects des rôles de vie, ne serait-ce une mère qui doit être disponible sur appel pendant des chiffres de 10-12 heures. Il faut qu'elle ait son backup là, pour l'enfant qui fait des fièvres à la garderie. Si c'est pas le chum, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Et qu'on s'assure vraiment d'un checklist aussi au niveau personnel, ça se passe en coulisses, mais pour que chaque femme puisse être au moment où elle va travailler dans sa prestation de service, elle est dédiée, elle est productive, elle est pleinement présente, elle est pleinement en forme physiquement aussi. On a tout un volet là, où on accompagne les femmes dans, moi j'appelle ça comme ça, l'entraînement de leur résilience, justement pour quand arrive quelque chose de nouveau, quelque chose d'imprévu, ou justement je suis en toute connaissance de cause, je vais être prête pour rebondir dans n'importe quelle situation pour être effectivement... prête, dédiée, productive là, pour l'entreprise, puis ici on parle là, de l'ABI.
Est-ce que le pont a d'autres collaborations avec d'autres entreprises du parc?
On est amis, pourrait-on dire, avec STB Bécancour, là, par affinité, par connaissance. Ils nous soutiennent là, en coulisses pour le gala depuis le début. Mm-hmm. Ils sont des partenaires qui nous permettent de tenir l'événement. On fait partie du comité de liaison de Nemaska Lithium. D'accord. Également. Ma collègue Marie-Claude Ouani qui se relaie là, pour être là. J'ai envie de dire, tout ce qui est, là, quand on entend parler qu'il se passe quelque chose, vous avez parlé d'actualité, là, moi j'ai pris des notes, on tente de se rendre indispensable. On va dire ça comme ça. Il y a d'autres gens aussi qui pourraient rendre nos services, mais on est obligé de dire qu'on est les meilleurs et les plus agiles aussi pour répondre aux besoins précis, avec beaucoup de créativité aussi, là, comme les femmes.
Là, j'imagine la femme qui nous écoute ce midi, puis bon, moi, j'aimerais ça, explorer ces pistes-là, j'aimerais ça même mettre à jour mon curriculum vitae, mon CV. Est-ce que vous avez un service pour par rapport au CV, par exemple?
Bien, une bonne partie de nos activités quotidiennes, c'est effectivement l'accompagnement pour maximiser, optimiser les outils de recherche d'emploi, les mises en candidature. Aujourd'hui, il y a des robots recruteurs, il y a des logiciels recruteurs, donc on essaie de... on se met à jour, là, annuellement, on a des colloques, des congrès, des formations, puis on peut permettre à toute femme, peu importe le métier qui l'attire, de préparer vraiment ses techniques de recherche d'emploi, ne serait-ce que les entrevues également. Donc, tu sais, j'ai envie de dire, autant une entreprise qu'une femme qui nous écoute présentement, on a un site Internet, Le Pont, on est sur Facebook, Instagram, LinkedIn, j'ai de la difficulté, même TikTok, on veut se lancer là-dessus pour les plus jeunes générations qui poussent également, qu'on va être là pour elles. Donc, sur les médias sociaux, là, c'est facile de trouver nos coordonnées ou de nous téléphoner là, pour pouvoir entendre parler de ces services-là. Mais c'est notre majeur, effectivement, d'accompagner les femmes pour qu'elles puissent là, trouver leur X, on dit, là, mm-hmm. trouver leur X sur le marché du travail.
Donc, Donald, peut-être, alors que l'émission se termine bientôt, comment toi, comme PDG de la Société du Parc, tu perçois l'importance d'un organisme comme Le Pont par rapport aux entreprises du Parc?
Ça vient aider parce que tu sais, parfois, les entreprises peuvent avoir déjà un objectif de recruter davantage de femmes, mais c'est facile à dire, mais par la suite, il faut se mettre en action et puis il faut les intégrer, tout ça. Puis moi, ce que j'ai entendu, puis je ne sais pas si ils sont avec vous, mais une autre entreprise du Parc qui sont vraiment axées, tu sais, parce que quand tu ne trouves pas ce que tu veux sur le bassin de main-d'œuvre, ben, tu dis, OK, on va les former. Ouais. On va les accompagner, on va les former. Puis j'ai entendu, c'est un cas réel d'une infirmière qui ne se plaisait plus dans son contexte de travail, qui est allée comme opératrice dans une usine. Donc, il voit, OK, la personne a un potentiel, oui, au niveau du savoir-être, mais ça prend quand même des connaissances, soit être capable d'apprendre.
Oui.
Tu sais, parce que dans une usine, il y a quand même des procédés, il y a de la chimie, puis c'est quand même complexe, et puis il y a un aspect sécurité. Fait que, tu sais, je vois que de plus en plus, les entreprises sont ouvertes à aller de l'avant puis à former la main-d'œuvre et de ne plus attendre que les gens arrivent toutes formées, mais vraiment d'aller vers le potentiel des personnes et après ça, d'en tirer profit.
Et ensuite, nous, on est là pour les maintenir au travail aussi. Mm-hmm. On a tout un service de maintien en emploi dans les métiers à prédominance masculine. Donc, ces mêmes entreprises-là peuvent penser à nous pour maintenir les travailleuses au travail parce que parfois, les femmes quittent pour différentes raisons dans les métiers à prédominance masculine, mais nous, on souhaite qu'elles dépassent le 5 ans, là, qu'elles aient une pérennité, puis on est là avec notre service de maintien en emploi.
Ben, Mélanie Charron, merci beaucoup, conseillère donc en développement socio-professionnel de Dupont. Merci de nous avoir expliqué tout ça ce midi. Fort important et fort intéressant. Merci Donald Olivier encore une fois d'être avec nous pour vraiment nous parler aussi de ce lien entre Le Pont et le parc industriel, les entreprises du parc. Donc, merci encore pour ce bon sujet sur les métiers à prédominance masculine et les femmes ont accès à ces métiers-là. Et c'est Marc Rochette qui vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine pour une nouvelle édition du Parc en 30 minutes.